c'est parce que je fuis l'époque. Est-ce que je ne crois plus en les autres? Faudra danser. Est-ce pour ça que je marche seul?
Il est 19h sur le 101.5 de Radio G et l'heure que vous voulez si vous écoutez ce podcast sur le www.radio-g.fr. C'est beau micro, on va passer une heure ensemble, mais tout de suite, générique.
Sauvez-vous tous!
Nouvelle urgente, Batman au micro. Avis à tous nos amis, message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman, et venons-en au fait.
Trompez vite! Venez par chez moi ici!
Justement! Les touristes de bord!
Nous pouvons modeler votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir.
Tout ce que vous allez voir et entendre sur le 101.5 de Radio G. Bienvenue dans la case de Seb, l'émission qui, par le truchement des ondes radiophoniques, va propulser directement dans votre cerveau les plus belles images du manga, du comics et de la BD franco-belge. Seb au micro, on va passer une heure ensemble, mais je ne suis pas tout seul, je suis en compagnie de Florence. Salut Florence.
Salut, ça va?
Ça roule et toi?
Ça va très bien, merci.
Je suis en compagnie de Fabien. Ça va Fabien?
Ça va nickel.
Et je suis en compagnie d'un petit nouveau, mais pas tant que ça, Bruno. Salut Bruno.
Salut Seb, salut tout le monde.
Oh, ça, t'avais déjà participé il y a un siècle presque maintenant.
Ouais, j'avais arrêté pour faire du rock'n'roll. Et, bon, je fais toujours du rock'n'roll, mais j'ai du temps maintenant le lundi soir.
Et tu reviens nous parler de rock aussi, tant qu'à faire.
Et je te remercie de m'accueillir à nouveau. Oui, donc je vais essayer de vous apporter ma modeste expertise en rock et BD.
Eh ben parfait. Comme la tradition le veut, on va commencer par les news. T'es prête Florence?
C'est parti.
Allez, on t'écoute.
Alors du 24 au 26 octobre prochain se déroulera la 44e édition du Festival Quai des Bulles à Saint-Malo. On y attend environ 900 auteurs et autrices, 150 stands. Quai des Bulles est considéré pour certains comme le deuxième plus grand festival de bande dessinée et de livres d'aventure après celui d'Angoulême. Le festival prévoit donc un riche programme d'animation puisqu'il a pour objectif de faire découvrir la bande dessinée et l'image projetée à un large public, d'y permettre la rencontre des auteurs et autrices par le biais de séances de dédicaces, conférences, expositions. Le festival décerne également plusieurs prix pour encourager et découvrir de nouveaux talents et saluer des œuvres audacieuses. Concernant justement les remises de prix, on aura la révélation ADAGP, donc ADAGP Société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques, le prix ADAGP, le prix Ouest France Quai des Bulles, le prix Jeunesse Ville de Saint-Malo. Quai des Bulles se déroulera donc sur 3 jours avec des tarifs qui varient entre 8 et 25 euros pour les passes 3 jours.
C'est top ça.
Le 25 et 26 octobre également, on aura Acier sur l'Aimant, la 14e édition du festival BD. L'organisation de ce festival est assurée par l'association Des Montagnes et des Bulles et les invités d'honneur seront Sophie Turel et Stéphanie Dunant-Palaz. Cette édition sera plutôt orientée vers la jeunesse. Il y aura des séances de dédicaces et ventes d'albums des auteurs présents, des ventes d'affiches et des ateliers dessin pour les enfants. L'entrée est gratuite.
Tu avais commencé à nous faire des news, on s'est dit, est-ce que tu ne nous parlerais pas aussi un peu d'actu? Donc on t'a challengé là-dessus.
Effectivement, une autre information récente, donc on sort un peu de l'univers des festivals. Est-ce que vous connaissez l'application Wonder Mum?
Non, pas trop.
Jamais entendu parler.
Pareil.
Alors Wonder Mum, c'est une application lancée en janvier 2025 par Lise Sauberon, une habitante de Caen qui met en relation des parents de l'agglomération caennaise pour participer à diverses activités. Et malheureusement, Lise Sauberon est poursuivie en justice par la société américaine DC Comics, propriétaire de la marque Wonder Woman, qui juge les deux noms trop proches et qui lui demande de changer de nom, de logo et même de modifier les personnages de l'application. Donc Lise Sauberon ne compte pas se laisser faire et a décidé de lancer une cagnotte en ligne pour l'aider à régler ses frais d'avocat qui, vous vous doutez bien, s'élève à plusieurs milliers d'euros. Le lien de la cagnotte est disponible depuis le 29 septembre sur Internet sous le nom de Sauvons Wonder Mum contre DC Comics. Et on lui souhaite donc beaucoup de courage.
Effectivement, on lui souhaite beaucoup de courage. C'est un petit peu le pot de terre contre le pot de fer. Parce qu'on va dire que le budget avocat ne sera certainement pas le même d'un côté ou de l'autre.
C'est ça.
Eh ben, merci beaucoup. Alors, chers auditeurs, les aléas du direct, on avait un auteur sur lequel on devait faire une interview qui vient de me faire « Ah, mince, c'est ce soir ?» Je vais passer la main à un de mes collègues et puis on va y arriver. Est-ce que tu es motivé tout de suite, Fabien?
Ah oui, toujours.
On est parti sur Botta Botta, je te mets ton générique d'abord.
Allez, vas-y.
Nani ? お前はもう死んでいる。
Alors du coup, ce soir on va revenir sur le manga, un peu plus classique entre guillemets, par rapport à mes dernières chroniques précédentes. Et on va aller du côté de Ki-Hoon avec une sortie parue le 2 octobre dernier, qui est Botta Botta. Donc Botta Botta, c'est un one-shot de Paru Itadaki, qui est l'autrice très connue de Beastars notamment. C'est en 192 pages pour 7,95€ et on va être sur une tranche de vie sociétale, mais attention, un seinen malgré tout, donc plutôt à destination d'un public, on va dire à partir de 15 ans, je dirais, à peu près à partir de 15 ans.
Passe-le-moi, j'aime bien parcourir.
Vas-y, je t'en prie, regarde.
Non, parce que t'as dit un nom qui m'a beaucoup plu il y a pas longtemps.
Oui, tout à fait, c'est ça. Je pense que tu parles de Paru Itadaki, donc de Beastars. Donc, on va parler d'un titre qui, à première vue, est aussi déjanté que son concept. Donc, j'ai nommé Botta Botta, le one-shot de Paru Itadaki, la fameuse autrice donc à l'acclamé de Beastars. Publié en France chez Kiun, ce volume unique est une plongée singulière dans les thèmes de l'amour, du sexe, de l'acceptation de soi et de façon très littérale de la propreté. Botta Botta nous présente Mako, une jeune femme dans la trentaine, entreprenante et séduisante qui a un problème. Très handicapant pour sa vie amoureuse, elle est misophobe. Elle a une peur obsessionnelle des germes et de la saleté. Et cette angoisse se manifeste de manière spectaculaire. Chaque fois qu'elle est en contact avec quelque chose ou quelqu'un qu'elle perçoit comme sale, son nez se met à saigner abondamment, transformant le moindre baiser ou contact charnel en une véritable scène d'hémorragie. Imaginez le désastre lors d'un simple rencard et encore plus lors d'une relation intime.
Je suis fan.
Ouais, mais tu vas voir, le début, franchement, est très étonnant. On se dit, waouh, mais en fait, c'est complètement what the fuck. Ça aurait pu être un peu dans ta fameuse chronique what the fuck, mais pas tant que ça. Donc Mako désespère de trouver un homme capable de supporter ses torrents écarlates, mais elle refuse d'abandonner l'espoir d'une vie affective épanouie. Le récit suit sa quête obstinée pour l'amour et l'acceptation. Ce qui frappe immédiatement, au-delà de ce pitch loufoque, c'est l'approche de Paru Itadaki. Après avoir exploré les relations humaines à travers l'allégorie animale de Beastars, elle se tourne ici vers les humains, mais avec la même originalité et le même sens du drame social et psychologique. Le dessin, avec ses visages aux grands yeux et ses corps singuliers, est immédiatement reconnaissable et nerveux, rendant l'impact du sang encore plus fort. Mais attention, Botta Botta est plus qu'une simple comédie gore ou un manga what the fuck. Sous l'absurdité du saignement excessif de l'héroïne, l'autrice aborde des questions profondes. Qu'est-ce que la pureté? Qui est propre aux yeux de la société ou de l'autre? Le sang de Mako est une métaphore de son blocage psychologique, un trauma lié à son enfance et à la difficulté de s'accepter telle qu'elle est. C'est une histoire sur la vulnérabilité et la force nécessaire pour se mettre à nu, au sens propre comme au figuré. Le format one-shot ici est parfait, donnant au récit un rythme maîtrisé. Si vous êtes amateur de seinen décalé, d'histoires qui utilisent un concept étrange pour parler de sujets très humains et que vous appréciez le style unique de Paru Itadaki, ne passez pas à côté de Botta Botta. C'est une œuvre qui ne vous laissera pas de marbre et qui, sous ses flots de sang, est étonnamment positive. Attention tout de même, nous sommes bien sur un seinen avec certaines scènes crues et donc pas à destination des plus jeunes.
Effectivement, il y a du sang, il y a du sexe.
Il y a beaucoup de sang, il y a du sexe, sans jamais en montrer réellement, mais on la voit souvent nue, mais avec, et souvent maculée de sang, avec des scènes, en effet, on jongle un peu entre de l'humour, de l'horreur, un peu, parce que ces traits, des fois, sont, quand elle est dans les mares de sang, sont tirés un peu, vraiment, font presque peur, mais avec vraiment un fond très intéressant que je vous laisserai découvrir et qui amène à se questionner sur pas mal de choses finalement. Donc c'est bien amené, c'est très original. Vraiment, moi c'est ce... Donc pour info, c'est pas un service de presse, là c'est moi, c'est, un...
c'est une chronique libre.
C'est une chronique libre, parce que quand j'ai vu passer ce pitch, ça m'a intrigué, parce que franchement j'ai trouvé ça très étonnant comme façon d'aborder avec ce sang et tout ça. Et ça vaut le coup d'y aller. Je sais pas si ça plaira à tout le monde, parce que c'est quand même particulier, il y a un parti pris hein, derrière ce concept-là, mais je trouve que ouais, ça vaut le coup de tester.
Eh ben, je te remercie Nord, fais découvrir ça.
Ben je t'en prie, puis si tu veux, je peux te le prêter.
Ah ben, avec grand plaisir.
Donc du coup, c'est Bota Bota aux éditions Kiun, et il y a 192 pages pour 7,95€, et c'est de Palu Itadaki.
Eh ben parfait. J'en profite, puisque du coup, alors... On rentre dans les petits secrets de la conception de l'émission. La chronique, je l'ai découverte tard. On s'est pas synchronisé. Et il y a deux semaines, j'ai voulu aborder une chronique que je n'ai pas eu le temps de faire, puisque un autre manga de Paru Itagaki a été adapté en animé il y a très peu de temps. Et je suis tombé dessus complètement par hasard. Et j'ai fait, mais c'est trop bien, c'est Sanda qui a été adapté en animé. Il y a quelques épisodes qui sont sortis. On ne sait pas combien va y avoir d'épisodes au total. C'est des épisodes de 24 minutes. C'est le studio Saiyan Saru qui s'en est occupé. Et c'est diffusé sur Amazon Prime. Pour rappel, l'histoire de Sanda, c'est on découvre une jeune fille qui tente d'assassiner un de ses camarades de classe au couteau en tout début de bouquin, parce qu'elle est persuadée que ce jeune garçon est la réincarnation du Père Noël. Il s'avère qu'effectivement, il est la réincarnation du Père Noël et il a des pouvoirs un peu à la Marvel. Il peut devenir, en gros, c'est un petit garçon tout chétif qui devient un vieillard ultra musculeux de 2,80 m de haut, qui a pas froid, qui peut faire sortir des skis et qui est capable de détecter le mensonge à vue nez. C'est complètement barré, mais c'est excellent. L'animé fonctionne bien. Il y a un style graphique qui est très particulier, qui pourra repousser certaines personnes parce que ils ont essayé de coller au style du manga et effectivement le style est très très particulier avec des personnages avec des yeux très
très tirés, j'imagine,
très tirés, très sombres, un peu comme si vous aviez un gothique qui a mis beaucoup trop de maquillage. Et ça marche super bien, l'animé est cool, voilà, on voit pas le temps passer. Donc si vous avez aimé le manga, vous risquez d'aimer l'animé. Si vous connaissez pas, je sais pas si vous aimerez l'animé, mais ça vaut le coup de le découvrir. Au moins, faites-vous le premier épisode. Si ça passe pas, ça passera pas du tout pour le reste. Mais allez-y, c'est vraiment un gros kiff de ma part. Et ça a été c'est un auteur qui a été une grosse découverte, une autrice.
Une grosse
découverte. Et j'ai pas envie d'aller vers Beastars parce que c'est pas le même style graphique. Et j'avoue que ça me...
Ah oui, c'est vrai que c'est pas du tout le même style. Moi, j'avais été surpris, hein, notamment parce que je l'avais connu par Beastars. J'avais lu les premiers tomes, j'avais pas pu aller plus loin parce que j'ai pas eu l'occasion. Mais du coup, quand j'ai vu Sanda sortir, je fais, ah, bah, c'est la même. D'accord, ok, étonnant. Et puis là, Bota Bota est plus dans ce style-là.
Hein. Ouais, on est
dans
plus
le même
style
que
Sanda,
Sanda que du style de Beastars. Clairement.
Beastars, ça semble vachement conventionnel, en fait, par rapport à ces deux autres.
Ouais, alors que ça. Ça creuse quand même beaucoup de questions. Je pense que c'est plus psychologique, Beastars.
C'est plus psychologique que Sanda, je pense. Ouais. Sanda, on est plus dans l'action quand même, malgré tout, a priori, de ce que j'ai vu. Beastars, on est quand même beaucoup plus sur les relations humaines et, alors, animales ouais. pour le coup, mais derrière, forcément, avec les allégories.
C'est le miroir déformant.
C'est vraiment le miroir. Et là, on va être un peu, là, je pense que, bah, pour le coup, on a un peu un mélange des deux. On a le dessin de Sanda avec le côté un peu plus psychologique qu'on peut retrouver dans Beastars et le côté sociétal qu'elle aime bien aborder. Et
si vous avez jamais lu ces bouquins, allez-y, vraiment, c'est puis allez voir le papa aussi. C'est...
Oui, tout voilà. à fait. On vous laisse découvrir qui c'est pour ceux qui savent
pas. C'est de très très bons conseils. Ce que je propose, c'est de faire une petite pause musicale dès à présent. Je vais vous emmener dans un univers, alors vous avez sans doute connu, ou si vous connaissez la série Dandadan, la musique va vous parler. Par contre, je vous emmène dans une version un peu particulière. Je sais pas si vous connaissez les Tiny Desk Concerts. C'est une boîte au Japon qui font des tout petits concerts dans des bureaux, et ils font des concerts avec des groupes dans les bureaux. Donc on va écouter Aina The End avec On The Way, et c'est un concert Tiny Desk. 5 FM. Aina, The End on the Way, issu de la bande son de Dan Dadan, Suri, qui pourrait tout à fait figurer dans une chronique What the Fuck, mais je n'ai pas du tout lu. Donc,
moi, alors, j'ai pas lu, mais je regarde l'animé.
Et c'est bien What the Fuck.
C'est bien cool. Non, j'aime bien. Ouais, c'est assez What the Fuck, en effet.
En tout cas, ça cartonne et la bande son, voilà, Yoasobi, Aina, The End, ça marche très très bien. Que faisons-nous là? On a eu des nouvelles de l'auteur dont on doit faire l'interview. Il est en route. J'espère qu'il a mis la radio dans sa voiture pour nous entendre dire du mal de lui.
Et on va pas se gêner.
On va pas se gêner. Mais du coup, on va vous faire patienter un petit peu. On va. Est-ce que tu es partant pour ta chronique tout de suite, Bruno?
Eh bien, lançons-nous.
Lançons-nous. Alors. Hop, je me cale juste ici. De quoi tu nous parles?
Eh bien, je vais vous parler de l'album Les héros du peuple sont immortels, qui est sorti cette année au mois de mai 2025. Bon, j'ai un peu de retard parce qu'il faut que je me remette dedans. donc, c'est paru chez Dargo. C'est un one-shot de Stéphane Wary. Et je vais tout de suite vous dire de quoi il retourne.
Eh bien, de quoi il retourne? Faut-il être un voyou pour être un vrai rocker?
La question peut légitimement se poser au regard du CV de pas mal de rockstars qui sont illustrés dans les figures de style du rock and roll way of life, tels que les bastons dans les concerts, les bars, la destruction de chambres d'hôtel, les abus sexuels sur des filles pas forcément consentantes et parfois pas forcément majeures, et bien sûr l'incontournable consommation de substances illicites en tout genre, un séjour en prison constituant le marqueur ultime de la crédibilité rock. Même ce gentil et vénérable Paul McCartney a fait de la tôle pour détention de drogue, c'est vous dire. Mais dans cette caste de bad boys, la palme revient assurément au punk, crade, déjanté, mal élevé, perpétuellement défoncé, comme on se les représente. Le punk, au-delà de la provocation gratuite, le rejet de toute convention sociale ou politique, c'était avant tout, au départ, une revendication libertaire, souvent anarchiste et surtout une envie irrépressible de crier qu'on existe. Dans le rock, ça s'est traduit par le rejet de la virtuosité musicale et le retour à l'énergie brute du rock, loin de la théâtralité et du business qui dominait dans les années 1970. Comme d'habitude, c'est parti des States, avec les Stooges, des New York Dolls, les Ramones, et ça s'est rapidement propagé en Angleterre. Sex Pistols, Clash, Buzzcocks, je ne vais pas tous vous les faire. En France, on a pris le train durant les années 80, à la grande période du rock dit alternatif, avec Berrurier Noir, Parabellum, Garçon Boucher, OTH, qui est évoqué dans l'album d'ailleurs, et dont on entendra un extrait tout à l'heure, et toute cette scène-là. Gilles Bertin a fait partie de cette vague musicale en tant que chanteur du groupe bordelais Camera Silence au début des années 1980. Et c'était aussi un authentique voyou, ayant fait de la prison pour cambriolage. Mais son principal fait d'armes sera d'avoir, avec ses complices, braqué un dépôt de la Brinks pour un montant de 11 751 316 francs, donc ça fait à peu près 1,8 million d'euros aujourd'hui, ce qui lui a valu un exil d'une trentaine d'années au Portugal puis en Espagne.
Ok pour la bio rock, mais la BD dans tout ça ?
Alors, Gilles Bertin a raconté son histoire dans une autobiographie qui est parue en 2019, que Stéphane Wary a eu la bonne idée et le talent d'adapter en bande dessinée. L'auteur a déjà œuvré dans deux excellents albums où le rock jouait un rôle important, Une vie sans Barjot et Pauline et les loups-garous. Et il a également fait une magnifique et crépusculaire évocation de Johnny Thunders dans Rock Strips. Donc, le monsieur s'y connaît un petit peu. Dans Les héros du peuple sont immortels, il apporte une nouvelle illustration que le destin des rockers, avec ou sans la gloire, peut être un chemin de galère, voire de souffrance. Le récit est impeccablement construit en choisissant opportunément, après un flashback préliminaire au Portugal, de se focaliser sur la période française, rock, drogue et braquage de Gilles Bertin, puis la dernière époque de son exil en Espagne. L'auteur nous fait revivre avec une authenticité rare, tant des personnages que des ambiances, la saga de cet anti-héros ainsi que de ses potes, marquée par la précarité, la dépendance à l'héroïne, la délinquance, la maladie, le sida. Il a été atteint de ça, auquel la musique et l'amour vont lui permettre d'échapper à une issue tragique et précoce et au final lui apporter une véritable rédemption. Wary n'a pas son pareil, grâce notamment à son travail sur les trames de Noir pour retranscrire la fièvre des concerts rock avec la furie des pogos, l'énergie de la musique que l'on peut presque entendre à travers les cases. Et pour les vétérans, dont je suis, c'est un vrai bonheur de voir ressusciter cette époque bénie des dieux du rock où la France a semblé enfin se déniaiser musicalement.
Eh ben, tout un programme musical.
Donc, les héros du peuple sont immortels. La cavale de Gilles Bertin, c'est chez Dargaud. Il vous en coûtera 21,50€ pour 128 pages. Au dessin et au scénario, Stéphane Wary. Histoire complète et passionnante.
C'est un bouquin, vous ne devriez pas le louper hein, dans les étals. Il est jaune et noir, il claque bien.
Ouais.
Il y a une référence punk sur le code couleur un petit peu, non ?
Oui, on peut penser à Never Mind the Bollocks des Sex Pistols. J'y avais pas pensé, ma foi, mais pourquoi pas. Oui, effectivement, ça pète bien dans...
Je fais avec mes rêves.
Non, mais c'est bien, Seb, tu as du potentiel.
Nice, merci Bruno. Avant de vous mettre un petit coup d'OTH, je vais aller avec je vais vous parler d'un autre type de punk. Je vais vous parler des Putains de Chats, un album de Lapus et Tartuffe publié aux éditions Marabule. Vous connaissez ou pas ces petits formats tout carrés, tout mignons?
Ouais.
C'est donc 64 pages, format carré, 8,95 €. C'est le tome 2, 4, 6, 8, 10, 12. C'est le tome 13. Mais en fait, c'est le tome 0, puisque ce sont les origines de Moustique, le putain de chat qu'on suit dans tous les bouquins. Et on voit en fait de sa naissance jusqu'à ses premières années à quel point il va commencer à pourrir la vie de tout le monde, puisque pour ceux qui ne connaissent pas, Moustique s'exprime avec brio sur à quel point il déteste l'humanité et à quel point il a envie de pourrir la vie à tout le monde. Imaginez un petit chat tout mignon qui voit une litière et lui il pense tout de suite à mince, comment je vais pouvoir faire pour mettre des crottes partout juste pour faire suer le monde. C'est exactement comme ça que fonctionne ce chat. Donc c'est très drôle. Le dessin, il est très cool, il est très simpliste, mais ça marche tout seul. Moustique, c'est une grosse masse noire avec juste deux yeux blancs et on devine la perfidie du chat à travers. Et il y a plein de vannes. C'est très drôle. C'est pas pour les enfants, puisque Moustique s'exprime de manière assez crue. Enfin voilà. C'est une petite pépite. Si vous aimez les chats tout mignons et compagnie, c'est pas pour vous. Parce que, effectivement, c'est une vraie saloperie, ce petit chat. Voilà. Flo, tu as regardé, t'as parcouru. T'aimes ça, les chats, à la base?
J'aime bien les chats, mais effectivement, il y a beaucoup de chats comme ça.
Les chats sont là pour conquérir le monde, de toute façon. Bruno, t'avais l'air de connaître la puce un petit peu.
Oui, oui, je connaissais un peu la série, on va dire. Et oui, j'aime bien. Bah, j'adore les chats. Et bon, évidemment, c'est toujours pénible d'avoir un chat comme ça à la maison, mais au travers de la caricature, il y a quand même des traits de caractère qui sont bien restitués, quoi.
On pourrait avoir une vraie voix qui retransmettrait ça sur n'importe quel chat notre quotidien et on serait pas dépaysé.
C'est un Garfield en plus déjanté.
Ouais, en plus réaliste, parce que Garfield, des fois, il y a des trucs qui sont un petit peu, on va dire, surjoués. Là, c'est du factuel. La naissance de Moustique qui est décrite, elle est particulière. C'est, ouais. Je vous laisserai découvrir, chers auditeurs. C'est Putain de chat, tome 0 de Lapus et Tartuffe. C'est aux éditions Marabule. Ça coûte 8,95 €, 64 pages. Et c'est un service de presse. J'ai oublié de le préciser. On va écouter un petit morceau musical choisi par Bruno. Je te laisse présenter.
Oui, on parlait tout à l'heure dans ma chronique de OTH, qui était un groupe phare de la scène du rock alternatif dans les années 80. Moi, j'ai eu la chance de les voir en concert en Bretagne, et c'était des vrais rockers. À la fin du concert, ils ont démonté toute la scène parce qu'ils étaient pas contents après le service d'ordre qui tapait sur les punks au premier rang. Donc c'était des vrais, des purs, et il manquait pas d'humour non plus. Donc comme l'en témoigne le titre qu'on va entendre.
C'est OTH et le rap de Rap Tout sur le 101.5 de Radio G.
De bagnards, des inconditionnels de la jour organisée. Ils portent un masque noir et dérisoire sur les yeux. Un numéro de matricule, numéro de cellule. Voici les rapetos. Ils seront tout tentés pour s'emparer du dépôt de leur ennemi juré, j'ai nommé l'oncle Picsou. Qu'a si bien su déjouer leur ruse et leur stratagème, qu'à la fin de chaque histoire, ils partent des menottes au point. Voici les rapetos. Venez danser le rap, venez danser le rap, venez danser le rap. Des rapetos. Rapetos. Mais les frères rapetos n'ont qu'une seule idée en tête. À peine sortis du trou, ils redeviennent malhonnêtes. Derrière une vie rangée, ils préparent le grand coup. Ils iront jusqu'au bout et c'est pour ça qu'on les aime. Voici les rapetos. Et la nuit dans leur camion, juste à la lumière des phares, on voit briller leurs yeux des petits éclats malicieux. Ils redeviennent eux-mêmes, c'est l'aventure qui repart. Toujours prêt pour le rap, voilà une vie qu'elle est bien. Voici les rapetos. Venez danser le rap, venez danser le rap, venez danser le rap. Des rapetos. Wow. Nous sommes des frères. frères à poteau, prenez garde à vos seaux. Nous sommes les frères à poteau, surveillez vos bijoux. C'est quand il fait nuit que nous sortons de notre tanière. On renifle de loin les coffres forts remplis d'or. Prenez garde à vos seaux, car nous sommes les frères à poteau. Nous sommes les frères à poteau, prenez garde à vos seaux. Nous sommes les frères à poteau, surveillez vos bijoux. C'est quand il fait nuit que nous sortons de notre tanière. On renifle de loin les coffres forts remplis d'or. Prenez garde à vos seaux, car nous sommes les frères à poteau. Nous sommes les frères, nous sommes les frères à poteau. Nous sommes les frères, nous sommes les frères à poteau. Nous sommes les frères, nous sommes les frères à poteau. Yeah! Nous sommes les frères, nous sommes les frères à poteau.
www.radio-g.fr.
Allez, vous êtes de retour sur le 101.5 de Radio G. Vous écoutez toujours la case de Seb. Et nous sommes un tout petit peu plus nombreux. Un petit peu plus essoufflé. Ah, ça va, Tony?
Ouais, super, nickel.
Tiens, rapproche un petit peu ton micro qu'on t'entende bien. Voilà, c'est okay. Mieux. On est ravis de t'avoir ce soir.
Mais moi aussi, je suis ravi de m'être rappelé que j'avais une émission ce soir. Donc, voilà présent.
C'est que cette année, on est gâtés, en fait. On a des auteurs de très loin avec qui on a des communications téléphoniques qui se passent nickel. Puis plus ils sont proches.
Et les locaux, ouais, mais ouais. Ah bah. Moi, c'est une vilaine habitude chez moi, malheureusement. Mais bon. Ouais.
C'est pas grave.
Je suis arrivé à bon terme.
Ouais, puis
à bon terme,
dans les
à bon
temps,
port,
hein,
plutôt.
À bon port. Mais... À bon port. Tu es là pour nous parler de deux albums ce soir. Par lequel tu veux qu'on commence?
Non, comme tu veux. Là-dessus, j'ai
d'abord
pas.
D'abord la jeunesse?
Ah ouais, allez. Parti.
On va parler de Papy Génial. C'est publié, donc c'est que toi, là, tout seul.
Comme un grand, ouais.
Et c'est publié chez Comics Initiative. C'est le tome 3.
Ouais, c'est le troisième. Les deux premiers étaient sortis initialement chez Kenes, et puis là, c'est le troisième qui est une vraie exclue. Parce que le premier et le deuxième sont ressortis chez Comics, ouais, dans un format différent, avec une maquette légèrement différente, légèrement améliorée. Parce qu'il y a des jeux à la fin, ce qu'il n'y avait pas sur la version Kenes. Et celui-ci, c'est le troisième, les dinosaures qui avaient besoin de lunettes.
Et ce sont des BD pour les plus jeunes qui ne savent pas forcément lire, parce qu'il n'y a pas de texte.
Non, c'est de la primo-lecture, c'est bah oui, effectivement, un peu à la manière de Petit Poilu. Alors, il n'y a pas de texte, mais il y a quand même des...
Il y a des bulles avec des, bulles, ouais. Des symboles ou des choses qui permettent justement... Alors là, il y a un peu plus de texte quand même. Est-ce qu'il y a des jeux justement à la fin?
Alors à la fin, t'es obligé de passer par des textes, parce que du coup, on s'adresse aux adultes pour qu'ils expliquent le jeu aux enfants. Et il faut bien que
les
règles
soient
un poil plus compliquées que la BD. On explique ça. Après le reste, ouais, effectivement, je passe par des petits symboles. Concrètement, je me suis dit au départ que ça allait être marrant de faire des BD muettes, et en fait pas.
C'est compliqué.
C'est presque plus chiant que de faire avec des dialogues. Le dialogue, c'est une béquille, tu vois, en bande dessinée. Donc, ça te permet de faire passer des idées. Et quand t'as plus cette béquille-là, t'es obligé de t'assurer
que
les petits lecteurs, ils vont bien piger ce que tu racontes. Au-delà du fait que toi, t'es un adulte et que, t'es un peu sorti de cette population-là et qu'il faut que tu t'adresses à des enfants et que tu t'assures que eux pigent. Du haut de leur, je crois que c'est à partir de 3 ans qu'ils conseillent en fait la lecture, Mickaël. Et il faut qu'un môme de 3 ans pige, sachant que du coup on n'a pas le cerveau qui est constitué de la même façon. Donc c'était pas évident, mais c'est plaisant à faire, mais beaucoup moins simple que ce que j'imaginais. Concrètement, j'avais pris de ça en me disant ça va être fastoche, mais pas du tout.
Puis t'as peut-être aussi le décalage déjà de base quand t'es auteur de BD, que t'as écrit une scène, tu dis elle fonctionne. Déjà, c'est sans doute difficile de faire le pas de côté, de se dire, attends, est-ce qu'il y a un truc qui marche pas dans la narration? Là, c'est peut-être encore plus compliqué, parce qu'il y a aussi le décalage d'âge.
Il y a ça, et il y a le fait, c'est vraiment celui où, du coup, au niveau de l'écriture, tu sais, on fait toujours des petites didascalies, un peu comme une pièce de théâtre, et puis ensuite, on commence à dessiner. Et ce qui fonctionne à l'écrit marche beaucoup moins bien au dessin. Quand t'as pas cette béquille-là, parce qu'encore une fois, j'ai du mal à me passer des dialogues. Là, on est obligé de le faire, parce que c'est vraiment une prérogative du système. Mais c'est intéressant parce que ça te fait te remettre en question sur tes fondamentaux narratifs, et puis tu cherches peut-être des nouvelles approches graphiques. Donc moi ça m'intéresse, mais encore une fois c'est un exercice auquel je pensais pas me frotter de manière aussi ardue.
T'aimes bien les challenges, t'aimes bien les grands écarts aussi, donc
j'aime bien pas m'emmerder, et du coup ça c'est plutôt pas mal pour éviter de se faire chier.
Tu l'as testé avec un public test?
Ouais, j'ai des bêta-testeurs, des copains qui ont des enfants en bas âge. Moi, mes filles et mes neveux sont beaucoup trop vieux maintenant pour profiter de la lecture, et puis me dire si oui ou non, oui, il y a des trucs qui déconnent ou il y a le fils de Michael, hein, déjà Adam, il a 3 ans je crois, 4 ans. 4 ans si je dis pas de bêtises, donc il est pile-poil dans la cible. Donc ouais, j'ai des bêta testeurs. Mais moi rappelle... ouais, tu vois, je me fais pas du tout confiance en tant que lecteur de 3 ans quoi.
C'est pas évident.
Non. On rappelle quand même à Michael que le travail dissimulé d'enfant, c'est interdit en France.
Bien sûr, mais c'est pas du tout dissimulé.
Bon, ça passe alors.
Ça passe.
Donc, troisième tome qui est sorti là tout de suite en fait.
Qui est pas sorti en fait. Hein,
il est encore sorti.
On en parle là, mais il me semble que c'est mi-novembre. Alors, il va être en avant-première à Saint-Malo ce week-end parce que c'est Quai des Bulles, au même titre que le deuxième bouquin dont on va parler. Mais pour l'instant, il est pas sorti, non. Non. Il devrait pas tarder à arriver entre les mains des contributeurs parce que c'est des campagnes Ulule.
Ouais.
Mais
Comics Initiative ne fait que ça, hein, des campagnes.
À l'heure actuelle, ouais. Je crois qu'il y a 2-3 exceptions, mais en règle générale, ouais, c'est financé obligatoirement par Ulule, par financement participatif. Encore une fois, à 2-3 exceptions près, mais je les ai pas en tête là tout de suite maintenant. Mais la plupart des bouquins, ouais, sont financés de cette manière-là.
Ok. Il y a déjà un tome suivant de prévu.
Ouais. Bah du coup,
il y a le petit image teasing
en fait,
à la fin.
Ouais, j'ai pas envie de rester en carafe et je tease en fait l'album suivant, mais comme un accord avec l'éditeur si tu veux, mais c'est une manière de m'assurer qu'il y aura un quatrième, puis un cinquième, puis un sixième, comme ça jusqu'à ce que mort s'en suive. Enfin, rien, je parle du
ce
coup.
Qu'on souhaite pas quand même.
Le plus longtemps possible, hein, bien sûr. Non, mais ouais, avoir le temps de donner sa chance à la série. C'est ouais. Un peu un problème de l'édition actuelle, c'est que bien souvent les chiffres de vente ne sont pas concluants très rapidement. Alors selon des
il y a un rythme effréné,
mesures qui
oui,
m'échappent. Hein. Mais ouais, il y a un rythme assez effréné déjà en termes de sortie et du coup les bouquins sont de moins en moins longtemps sur les étals des libraires. Enfin en tout cas ce que j'appelle le facing, tu sais, avant qu'ils se retrouvent en fait sur le dos et puis qu'on ne voit plus que la masse
tranche
jaune là, me concernant. Et c'est vrai que bah du coup ça devient compliqué de se dire je signe pour un trois tomes par exemple, une série de 3 tomes, mais d'aller au bout, enfin d'avoir l'assurance d'aller au bout. D'ailleurs personne ne s'engage à l'heure actuelle, exception faite de Michael, donc c'est pour ça que j'ai signé chez lui, puis bah on verra jusqu'à ce qu'il en ait marre, je sais pas trop, mais grosso modo on va continuer jusqu'à ce que je n'ai plus d'idée.
Ben, je dirais qu'en plus Comics Initiative a un fonctionnement un peu différent puisque j'ai l'impression qu'il y a un vrai suivi des éditoriales. Chaque bouquin a beaucoup de temps auquel il lui est consacré.
Ouais, il aime bien appeler ça des long-sellers. En fait, je connaissais pas le terme, mais c'est un anglicisme pour dire que ça se vend sur le long terme, tu vois. Puis que c'est un bouquin qui connaît pas justement les affres de ce qui se passe actuellement dans l'économie de la bande dessinée, à savoir, voilà, si tu cartonnes pas dès tes premières semaines, on en a fait les frais. Hein. Moi, j'étais chez Dargo avec Bande de Pirates. Le bouquin est sorti en juillet. Et en septembre, concrètement, on était à Bruxelles et on nous disait qu'il y aurait pas de tome 2 parce qu'il y avait pas suffisamment de ventes. Donc, en termes d'échelle de vie, tu vois, c'est très court. C'est vraiment des papillons, hein, les bandes dessinées à l'heure actuelle. Mais là, c'est différent. Là, du coup, il laisse la série s'installer, il me laisse plus ou moins libre de faire ce que je veux, il me fait confiance, quoi, concrètement. Donc, c'est un sentiment qui est très agréable. Non pas que les autres nous font pas confiance, mais
il y a un peu plus cadré, des fois.
Ouais, il y a un peu plus de suivi, ouais, clairement. Mais j'aime bien le suivi éditorial, hein. Jusqu'à un certain point, bien comme tous les auteurs.
Alors, c'est pas le seul projet que tu as chez Comics Initiative.
Non.
Tu as aussi l'autre gros bébé.
Ouais.
Paria. Là, on est sur le tome 3.
Ouais, aussi.
Sur
4. Ouais. Que des 3 en ce moment.
Ouais. Est-ce que tu veux nous reparler? Alors, parce que t'en as déjà parlé du tome 1, t'as déjà parlé du tome 2. Mais pour ceux qui ne connaîtraient pas Paria, déjà un petit peu la genèse de ça.
La genèse de la série ou
de la série globale et puis le début du 3.
Ah, c'est un truc qui date d'il y a très longtemps, Paria. C'était je crois que les prémices du scénario ils sont arrivés il y a 10 ans. Ça devait être Eric Aumont au départ qui devait dessiner ça. C'était pas forcément steampunk, ça s'est greffé ensuite et puis ça l'a pas fait pour plein de raisons différentes. Principalement parce que les éditeurs en ont voulu puis finalement n'en ont plus voulu. Bon, après ça c'est des choses qui arrivent dans la vie des auteurs et des albums.
Mais il y a des moments éditoriaux
aussi. En dents de scie, on va dire ça comme ça. Et je suis resté dans les cartons pendant 10 ans encore. Et puis un jour au retour d'Angoulême avec Boris Beuzelin qui dessine, que je connais depuis longtemps parce qu'on était au même atelier la boîte qui fait beuh. Il me dit voilà, je sais pas pourquoi, mais je sens que Paria, ça pourrait le faire, ça pourrait m'intéresser. Des planches que j'avais vues il y a 10 ans, il lui était resté quelque chose. Moi, j'avais complètement foutu ça au fond d'un tiroir. Et j'avais pas prévu de le ressortir, si tu veux. Donc, il a fallu réécrire, il a fallu remanier, il a fallu être un peu plus ambitieux. Parce que comme il s'était écoulé 10 ans, J'avais bon espoir d'avoir appris des trucs et puis de m'être un peu bonifié avec le temps. En termes d'écriture, en tout cas, et du coup, ça a été un plaisir de s'y remettre déjà, de peaufiner cette histoire. Donc ça, c'est vraiment un truc que je connaissais pas. C'est-à-dire que souvent, on n'est pas sur le premier jet, bien sûr, mais voilà, là, il s'était écoulé 10 ans, et du coup, c'était vraiment appréciable de revenir sur cette histoire, de voir tout ce que je, avec le recul que j'avais à ce moment-là, de me dire tiens, ça déconne, ça va pas, ça va plus, je comprends limite peut-être pourquoi à l'époque les éditeurs ont été un peu tièdes en accueillant le projet. Et il a la forme en fait qu'il a actuellement, qui est encore une fois perfectible, mais en tout cas elle nous plaît, et il y a un très bon accueil de la part des lecteurs sur cet album-là. C'est ça aussi la différence qu'il y a chez Comics Initiative en comparaison aux éditeurs classiques, encore une fois, c'est qu'on glane une espèce de communauté de lecteurs au fur et à mesure des albums. Et ça, c'est quelque chose d'assez nouveau. Tu vois, souvent t'avais un tome 1 et puis le tome 2, en termes de vente, ça décroît, c'est mathématique, hein, c'est comme ça. Chez Comics, c'est un peu différent. On convainc les gens, encore une fois, sur le long terme. Et c'est vrai que le lectorat paria grossit au fur et à mesure. On le voit au niveau des campagnes. Hein, concrètement, okay, on arrive à embarquer plus de monde. Et puis, bah, du coup, les festivals qu'on fait, les gens qui découvrent, très souvent, ils prennent le 1, puis le 2, puis le 3. Et c'est une belle aventure que ce truc-là, que moi, je croyais mort et enterré. Donc, bah, comme quoi, faut jamais foutre un projet... à l'eau ou de côté, faut toujours le garder et puis se dire tiens, peut-être
il y a des moments de projet
ouais, c'était peut-être pas le bon timing, ou pour faire une phrase de politique, j'ai eu raison trop tôt, tu vois, ce genre de truc. Mais
je fais une phrase de cinéma, tu vois, moi je pense que la vie c'est une question de
c'est une boîte de chocolat.
Non, c'est une question de rencontre.
Mais ouais non, il était trop, enfin je sais pas, il y a 10 ans, il serait sorti, je pense que je pourrais pas en parler comme j'en parle aujourd'hui. Enfin, c'est une phrase qui veut absolument rien dire, mais non, je suis content de cette historique un peu sur le long terme, quoi.
Et est-ce que tu penses que le fait de passer par des financements participatifs, du coup, des moments où il y a des campagnes de communication qui sont quand même un peu plus poussées, ouais, ça aide pas mal par rapport à un album qui serait, alors désolé pour le tacle aux éditeurs, mais qui serait pas forcément mis en avant commercialement par les éditeurs?
Ouais, bah, je sais pas. En fait, parce que du coup, je ne trouve pas super communicant avec Boris, concrètement. On était très chaud pour la première. Puis maintenant, sur la troisième, tu vois, j'y vais plus tous les jours quand il y a une campagne.
On t'oublie les interviews.
ça peut m'arriver, ouais. Mais non, je crois que c'est dur, encore une fois, à Comics Initiative. Hein, si jamais il écoute l'émission un jour, il sera content que je lui tire les pompes de cette manière-là. Mais je crois que ça tient vachement à la personnalité de Mickaël, qui a réussi à fédérer une vraie communauté de lecteurs qui le suivent, en fait, tout titre confondu. Ses choix éditoriaux souvent sont en phase avec les attentes des lecteurs, et bon, il a un petit microcosme à gérer, tu vois, c'est ouais, pas, peut-être comme les autres, mais non c'est un travail de longue haleine. Non, je crois pas que ça vienne de nous, enfin clairement, enfin peut-être la campagne qui a un coup d'éclairage, mais ça reste très anecdotique dans le monde éditorial actuel, et en fait la somme de sorties, puis on n'est pas les seuls à être sur internet, hein, maintenant il y en a de beaucoup, enfin en tout cas à passer par le financement, ouais, participatif, il y en a de plus en plus.
Après, si un jour je tends le micro à Mickaël et qu'il veut venir parler de Comics Initiative ici, ouais, ce sera grand plaisir.
Ouais, bah je l'amènerai, comme du coup je connais la route. Bah. Faudra juste pas qu'on oublie.
Mais il est de pas très loin.
Non, il est Tours en jeu, ouais, il est quasiment local, ouais.
Ça se fait. Fabien, Florence, Bruno, n'hésitez pas à intervenir, hein, si vous avez des questions, il n'y a aucun problème.
Ah oui, n'hésitez pas. Hein.
Moi, j'attends le tome 4.
J'attends le tome 4. Tu ne liras que quand
il va expliquer cette théorie en antenne.
Tu fais du binge reading, c'est ça? Tu lis tout d'un coup.
Oui, exactement. Mais j'avais quand même contribué dès le début. Je suis.
Ouais, bien sûr.
Un fan de la première heure, on peut le dire.
Ça fait plaisir.
Là, tu es scénariste principalement, ouais, pas du tout de dessin de ta part dedans.
Bah, si un petit peu, mais pas du tout sur tout ce qui est le récit en tant que tel.
Oui.
Moi, j'apporte alors mes compétences de maquettiste, parce que je suis graphiste aussi à la base, donc le bouquin est maquetté par mes soins. Il y a des coupures de journaux. Il y a l'ostensible qui est la coupure de, enfin qui est le journal un peu ancestral parisien de cet univers-là. Et puis là, on a rajouté le vaillant des gaves, parce qu'il y a une partie qui se passe sur Angers, une partie du récit qui, ouais, le tout début du récit se situe à Angers, et puis bah du coup malheureusement ils vont foutre un peu Angers à feu et à sang, donc après ça va se resituer sur Paris. Et puis il y a des cartes, il y a des plans, il y a des petits exercices graphiques, voilà, qui me font un peu participer, parce que sinon juste l'écriture sur ce projet-là, je m'en voudrais de me contenter de ça, donc ouais, j'amène des petits trucs, mais en comparaison au travail qu'a Boris, c'est rien du tout, quoi. C'est juste des petites friandises pour les lecteurs.
C'est toi, Vas-y.
C'est toi qui storyboard ou?
Ouais, c'est un storyboard écrit, parce que quand on connaît Boris, il est beaucoup plus efficace avec un storyboard écrit, puis tu connais un peu mon dessin, hein, donc pour storyboarder, pareil. Ça pourrait, si tu veux, connaître des indications, mais en fait, il est tellement bon dans la mise en scène que je préfère lui donner un matériau qui va ressembler un peu à une pièce de théâtre, tu vois, avec ce qui se passe dans les cases et puis les dialogues, et puis après lui il fait des merveilles avec ça. C'est pas de la flagornerie, hein, c'est vraiment un truc où du coup je me dis à chaque fois il emmène le truc un peu plus loin que ce que j'avais imaginé. Donc ouais, c'est un mariage qui fonctionne bien avec Bob. Donc bon, on se connaît depuis longtemps, mais bon, ça c'est pas forcément une garantie que ça va marcher, hein. Ça peut au contraire même moins bien marcher quand les deux parties se connaissent très bien. Et là, non, je bénéficie vraiment de l'expérience de Boris en termes de mise en scène, ce qui a tendance à changer un peu mon écriture aussi. En fait, j'écris plus de la même façon en comparaison au premier ou au deuxième.
Mais parce que tu sais que tu t'adresses à Boris.
Bah, j'ai cette tique de mise en scène, ouais, puis j'adapte un petit peu effectivement à sa manière d'appréhender lui mes textes, quoi. Et puis après, voilà, il est pas avare d'idées, il m'en fait part, et puis encore une fois, le scénario, c'est un matériau qui est vivant. Jusqu'à ce qu'on imprime les pages, quoi, dans l'absolu. Donc une fois que c'est sous les presses, c'est foutu, hein. Ça va être immortalisé entre guillemets. Mais avant, on peut remanier quasiment jusqu'à la dernière minute et on s'en prive pas. Sur le premier, je crois que ça a été très tendu pour rendre. Bah sur celui-là aussi. Bah sur le deuxième aussi. En fait, c'est tendu à chaque fois, mais ça vient de nous en fait. Mais voilà quoi. Je suis pas quelqu'un de fermé. Tu vois, je suis pas le scénariste qui se dit bah écoute, ce que j'ai fait c'est l'étape de la loi. Donc tu ne déroges pas à ce que j'ai écrit. Et... Non, au contraire, je trouve qu'on a à se nourrir à chaque fois de la personne avec qui on bosse.
Mais c'est une nouvelle commune.
Bah c'est un regard nouveau. Ce serait complètement con de ma part de dire non, tu t'en tiens à ce que j'ai écrit et ce sera très bien.
Alors, hormis le fait que tu sois assorti au bouquin, je sais pas si c'était
volontaire. Ouais, mais c'est ma tendance orange-jaune, là. C'est des tons automnaux, qu'est-ce que tu veux que je te dise?
C'est clair qu'il y a le côté très citrouille qui fonctionne pas mal. J'ai l'impression que le bouquin a tendance à être un peu expansif de volume en volume.
Ouais.
Il y a plus de pages, hein.
Il est effectivement plus épais. Là, sur celui-ci, et encore, on a taillé dans le gras parce qu'il aurait dû avoir plus de pages. Mais au bout d'un moment, je pense que ce serait, ça se serait peut-être un peu vu, que ça se voit, c'est pas très grave, mais en comparaison au premier et au deuxième, c'est vrai qu'il y a un crescendo. Oui, celui-ci est très violent, dans le sens où il est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus épais que ses petits frères, parce que l'histoire tend à s'emballer à partir de maintenant, et puis notamment le quatrième tome. Enfin, celui-ci, c'est vraiment un tome charnière. C'est vraiment là où on commence à avoir des révélations, des petites révélations, hein, histoire de
remonter le climat,
ça. Ouais, c'est ça, puis de bien attaquer le quatrième avec, puis là pour le coup ça va être que des révélations coup sur coup, parce que on a ouvert plein d'arcs narratifs avec plein de mystères, et l'idée c'est de pas faire une fin à la Lost pour celles et ceux qui connaissent la série. De refermer les arcs en fait tant qu'à faire, donc j'ai vocation à tout révéler à partir du quatrième. Donc celui-ci est très dense en action parce que c'est du comics malgré tout, et le quatrième sera très dense en action et en révélation.
Puis du coup, le bonus nous parle à la fin. Ouais, j'ai vu qu'il y avait pas mal de bonus à la fin, beaucoup d'illustrations qui ont été ajoutées et tout ça.
C'est faut rendre à César ce qui appartient à Michael, encore une fois, c'est vraiment un truc à la comics, tu vois. C'est le fan art, ça vient des États-Unis. Les bonus, très souvent, ça vient des États-Unis. On va pas se mentir, les éditeurs bien souvent le font parce que ils ont un nombre de pages et puis du coup ils arrivent pas au bout de ce qu'ils ont prévu. Donc c'est une manière de remplir un peu les pages. Là c'est pas ça, parce que dans l'absolu, en termes de récit, on avait largement ce qu'il faut. Oui. Mais moi j'adore inviter des copains, j'adore que les gens s'emparent des personnages qui ont été dessinés par Boris et puis du coup donnent leur vision. J'aime bien foutre des petits croquis comme ça pour montrer un petit peu la genèse aussi, tu vois, de par quoi on est passé. C'est pas tout de suite un produit fini, donc il y a plein d'étapes avec des crayonnés qui sont grossiers, des choses qui sont remaniées, qui sont bougées, et puis un peu d'historique aussi parce que on parle du pont de la Basse-Chaîne. Donc on s'est renseigné sur le pont de la Basse-Chaîne. Ouais. Et c'était un pont suspendu, contrairement à ce qu'on peut penser. Et c'était pas la légende, en tout cas, veut qu'ils aient marché en cadence pour que ça s'effondre.
Ouais.
Et c'est pas le cas. C'est une tempête qui a commencé, puis c'était un espèce de c'était un pont suspendu, et donc ça commençait à faire un effet de tablier, et les hommes sur le pont, à ce moment-là, ont essayé de compenser, en allant à droite, à gauche, le genre de truc qu'on peut voir à Interville, par exemple. Mais ouais. Pour le coup, c'était pas du tout
l'ambiance.
Et évidemment, le pont a pété, ils se sont retrouvés à la flotte avec leur paquetage et beaucoup ont péri ce jour-là précisément.
Peu cool.
Mais il y a des gravures, en fait, du pont, parce qu'on a un peu creusé la question. Ouais. On a fait un peu d'histoire d'Angers. Et puis après, je voulais pousser encore plus loin, notamment parce que ça se passe à l'étang Saint-Nicolas, à toute fin. Et il y a des murs, notamment des grosses structures au niveau du mur des fusillés, par exemple, qui sont assez énigmatiques, en tout cas pour moi. Et je voulais les exploiter. Mais bah, faute de temps, on l'a pas fait, on est allé à l'essentiel.
Peut-être qu'il y aura une Emerios Cut à 800 pages.
Bah, en fait, oui, parce que du coup, il y a un peu de frustration sur ce tome-là, parce que j'avais envie de raconter des choses, trop de choses, très certainement. C'est toujours un peu le problème des scénaristes, en fait. Il faut faire du tri. Moi, j'avais envie de mettre tout ce que j'avais trouvé dégoté sur Angers à cette époque-là, tu vois. Enfin, tu trouves des trucs, l'église Saint-Jacques, il y a certains quartiers qui sont absolument incroyables. Du coup, on n'a pas eu le temps parce qu'on n'avait pas le nombre de pages.
Tout mettre.
Non, mais effectivement, ce serait bien parce que comme Paria, c'est une narration un peu éclatée où du coup, on, une fois on est en 1895, une autre fois on est en 1917, et tout ça, c'est sans transition, c'est très brutal, mais c'est voulu en fait concrètement qu'on ait une narration complètement éclatée qui s'étale dans le temps, d'où la frise chronologique qu'on a à la fin, qui fait partie des bonus. On pourrait très bien se dire tiens bah on a oublié de vous raconter cet interstice là quoi. On met cet interstice là à cet endroit là précisément dans le tome 4, dans le tome il y aura pas de tome 5 mais peut-être dans des appendices ou effectivement comme tu dis un Emerios Cut ce serait génial mais
comme ça a pu être fait avec le petit spin-off
ouais,
j'ai
exactement.
Perdu le nom,
hein. Ouais tout à fait. Alors c'est la cagoule et le piscopis.
Voilà.
C'est parce que je trouve des titres compliqués à chaque fois les gens s'en rappellent. Pas. Du moment que moi je m'en rappelle, c'est très bien. Très mais bien. Oui, en fait, la cagoule et l'épiscopie trouve son origine, en tout cas, dans ce tome-là. Et puis après, ça devient un spin-off. Et bien évidemment, on a sorti le spin-off de ce bouquin-là avant de sortir le bouquin. On fait tout à l'envers, mais on fait tout à l'envers depuis le début. Donc, autant continuer dans cette logique-là, quoi.
C'est pas grave.
Non, c'est pas grave. Mais en plus, j'ai bon espoir qu'à terme, les gens voient que ça n'a pas été fait par hasard et que ça a une forme d'utilité aussi, quelque part.
On va parler peut-être un peu de dessin, alors tu vas parler au nom de Brice, j'imagine, mais quelles sont les difficultés que tu as pu lui mettre dans les mains sur cet album?
Boris, il s'en fout en fait. Non, il dessine tout et n'importe quoi, donc les difficultés, bah, notre ennemi majeur c'était le temps, encore une fois, hein, ouais. Parce que après lui il était sur d'autres séries de son côté, moi aussi, et ça c'était pas le paria des premières heures dans le sens où on avait tous d'autres trucs à faire lui et moi et non après non je lui ai foutu des trucs assez improbables, un pont qui s'effondre, ils embarquent dans un train, Christine en fait elle traverse, Christine c'est un des personnages principaux, ils sont cinq en tout et pour tout, elle traverse tous les
wagons.
Comment ?
Les plus charismatiques.
Bah, de mon point de vue, ouais. Après, il y a plein de gens qui peuvent pas la blairer, mais moi, c'est ma préférée effectivement. Elle est censée traverser tous les wagons et puis écharper tous les gardes qu'elle croise parce qu'ils cherchent à ce moment-là un autre personnage qui est enfermé dans le train. Et Boris s'en est sorti à merveille. Moi, je devais étaler ça sur 3-4 pages, tu vois. Et lui, en une case, avec son sens de la synthèse, il a balayé tout ça et c'est beaucoup plus drôle. C'est-à-dire que, alors c'est marrant parce qu'habituellement, je suis plutôt un auteur d'humour. Enfin, je me suis sorti beaucoup plus de bouquins dans le rayon humour, on va dire ça comme ça. Et ça, je le voulais, mais hyper sérieux, mais presque trop. Finalement, tu vois. Et puis, ça m'a pas fait défaut, je pense pas, mais. Mais que ce soit Boris qui injecte un peu d'humour dans ce truc-là, bah du coup ça m'a remis un peu dans le truc et tous les deux on s'est mis donc celui-ci particulièrement, ce tome 3 sera sans doute un peu plus déconnant que les deux premiers qui étaient quand même très sérieux, voire trop sérieux.
Après ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, t'as modifié ton écriture pour fonctionner avec Boris, peut-être que Boris a fait la même chose, tu vois.
Je sais pas, et je pense que c'est surtout dû au fait qu'il prend du plaisir tout connement, et que on a ce sentiment, que pas un sentiment, on a cette liberté qu'on n'aurait pas chez d'autres éditeurs. Enfin, tu vois, par exemple, typiquement celui-ci, je crois qu'il devait faire 25 pages de moins, et moi je suis arrivé en disant non, il en fera 25 de plus, s'il vous plaît. Chez un autre éditeur, c'est mort. Enfin, genre t'as ton contrat,
oui,
tu
contrat,
dis non, les gars, regardez, ouais, c'est écrit là, c'est 46 pages, donc 66 jamais de la vie. Là, on dit à Mickaël, écoute, il y aura 25 pages de plus. Il gueule un peu, mais finalement, ça passe. C'est ça qui est appréciable aussi.
Au terme des challenges graphiques, depuis tout à l'heure, tu manipules un petit accessoire.
Ouais.
Est-ce que tu peux nous en parler?
Oui, bah ça s'appelle, c'est des lunettes anaglyptiques. Donc du coup, c'est je saurais...
Pour ceux qui connaissent pas, c'est...
je peux décrire, ouais, bien sûr, mais
les bleus et rouges.
C'est ouais, c'est ça, c'est lunettes en carton bleu et rouge qui ont été grandement popularisées dans les années 50. Je crois que ça doit dater à peu près de cette période-là, voire un peu avant. Notamment au cinéma pour les plus vieux d'entre nous
la dernière séance
exactement avec Eddie Mitchell
exactement
et c'était la créature du lac noir, ils avaient distribué ouais, à
ah yes
c'était une vraie première à la télévision, c'est la seule fois d'ailleurs de mémoire je crois.
Ouais, je crois qu'ils en ont dû, je suis pas sûr qu'ils en aient pas fait un autre, mais oui,
mais j'ai un souvenir fort moi gamin de ce truc là et ça m'a toujours fasciné. Et puis après il y a Joe Dante qui rend hommage à ça dans Panique sur Florida Beach, notamment avec ce producteur qui veut toujours aller plus loin. Donc il y a les lunettes anaglyptiques qui donnent une fausse sensation de 3D, c'est assez limitatif quand même. Et puis après lui, il faisait venir des acteurs sur scène, il cachait en fait des jets d'eau sous les sièges, etc. C'était vraiment le début de la ce qu'on appelle aujourd'hui de la 4DX, hein, ni plus ni moins. Donc c'est né à cette période.
C'est plus les mêmes lunettes hein, quand même.
Non, c'est plus tout à fait les mêmes lunettes. Ouais. Mais voilà, moi j'avais envie de rendre hommage à ça, mais encore une fois parce que j'aime les conneries. Enfin, j'adore toujours foutre des trucs qui sont assez improbables et puis faire des expériences. Mais je voulais que ça soit utile dans le récit. Enfin, je voulais que ce soit ça tombe pas comme un cheveu sur la soupe dans la narration.
Il y a un sens.
Et ouais, exactement, il y a un sens. Et au même titre que je suis tombé sur La Ligue des Gentlemen Extraordinaires d'Alan Moore et de Kevin O'Neill. Mmh. Alors pas dans la première itération, mais après par la suite, et ils font un truc comme ça et ça s'explique dans la narration. Et là, typiquement, les casques qui sont anaglyptiques, à savoir travailler en fait avec le rouge et le bleu pour avoir cet effet de 3D trafiqué encore une fois. Ça correspond aux visions qu'a un des personnages. En fait, il a cette capacité-là en particulier, c'est Karamoko, pour ne pas le nommer. Après, je spoil pas grand-chose parce que dès le départ, on voit qu'il
a un truc bizarre.
Ouais, qui peut tendre vers ça. Effectivement, oui, c'est un ancien fils d'esclave qui a une tumeur qui le rend super intelligent, qui lui donne des visions du futur, du passé. Il sait pas encore comment gérer le truc, mais qui le tue en même temps. Et ça, c'est un des grands trucs dans Paria, c'est que chaque pouvoir est à la fois une bénédiction, mais plus une malédiction. Il y a systématiquement un prix à payer. Alors, c'est pas moi qui ai inventé ça. Hein. Il y a beaucoup de, on retrouve ça beaucoup dans les comics. Je suis trop long.
On va arriver à la fin. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te trouver en termes de réseaux sociaux?
Moi?
Toi, Boris.
Sur les réseaux sociaux de vieux, particulièrement Facebook et Instagram. Ouais, Facebook et Instagram. Je crois que j'avais mon blast de graphiste quand j'ai commencé. C'est ouais, ça marche. Mais ouais. Tony Emerio, ça doit le faire aussi, je pense. Donc oui, on trouve sur ces deux réseaux-là. J'ai essayé TikTok, mais pour l'instant, je pige rien. Et LinkedIn aussi, mais c'est de mon point de vue totalement inintéressant comme réseau social.
C'est clair.
Donc ouais, Instagram et Facebook, mais plus facilement Instagram, je trouve ça plus simple, plus souple et plus pour les gens d'image en général.
Et ben top, hein. Merci Tony d'être venu nous parler de ces deux albums. On rappelle, Papy Génial, c'est le tome 3, c'est chez Comics Initiative, c'est plus pour les enfants. Paria, c'est aussi le tome 3, c'est en duo avec Boris Beuzelin, c'est chez Comics Initiative aussi.
Et c'est moins pour les enfants.
C'est ce que j'allais dire.
Et tout ça, ce sera disponible en avant-première à Quai des Bulles.
Ouais, ce week-end à Saint-Malo.
Et ce sera possible de se faire dédicacer.
Ah bah avec grand plaisir. Enfin, en tout cas, moi j'y suis enchaîné du vendredi au dimanche soir.
Donc, et ben super.
Venez nombreux.
Et on te verra en GBD
aussi également, bien sûr. Alors pour faire le listing, il y a Saint-Malo, Blois et en GBD. Non, je suis en train de regarder au mur, mais c'est pas du tout.
Non, c'est pas mon listing.
Mon emploi du temps.
Allez, je vous remercie tous les quatre d'avoir été présents ce soir. Je vous remercie, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Et puis on se retrouve dans 15 jours. On aura une autre invitée dans un autre registre. On accueillera Amy Bill qui nous parlera de Ma vie d'instit numéro 4. Allez, on se retrouve dans 15 jours. Et n'oubliez pas de lire, il paraît que ça rend intelligent.
Eh ben vous avez de la chance, parce que moi j'ai appris à lire, ben je souhaite ça à personne.
Sauvez-vous tous !
Nouvelle urgente, Batman au micro. Avis à tous nos amis, message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman, et venons-en au fait.
Rappelez vite! Tu n'es pas chez toi ici!
Justement! Les touristes de bord!
Nous pouvons modeler votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir.
T'es toujours là, toi? Mais c'est fini! Rentre chez toi!